Bonjour à vous. Si vous voulez, l'évangile de Luc au chapitre 16. L'évangile de Luc au chapitre 16. Je vous propose de lire à partir du verset 13. Luc chapitre 16, verset 13. Voilà, ce sont les paroles du Christ que nous lisons. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Sous le trait de Mammon, le Seigneur voulait parler en réalité de l'argent, érigé comme une divinité. Verset 14, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et que la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Voilà, nous avons pris la peine de lire les circonstances dans lesquelles ce récit a été apporté par le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que nous allons revenir à cette circonstance. Jésus s'adressait en réalité aux pharisiens. C'est pour ça qu'il va leur parler de ce mauvais riche. Le Seigneur employait souvent des paraboles, c'est-à-dire qu'il employait souvent des illustrations tirées de la vie, des choses de la vie, des choses simples, pour parler des choses éternelles, de son royaume spirituel, du salut, de la mort, de l'au-delà. Ici, il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une parabole. Dans les paraboles, en effet, nous ne trouvons pas en général le nom des personnes qui interviennent. Ici, il est tout à fait marquant qu'il soit question d'Abraham, des questions de ce pauvre nommé Lazare, dont il va être question, nous allons en parler dans quelques moments. Et c'est vrai que rien que ce fait peut nous faire penser qu'il s'agit de quelque chose de réel. Le Seigneur lève un coin du voile sur ce qui s'est passé dans l'éternité. Qui mieux que le Christ peut nous parler de la mort, de l'au-delà, de ce qui se passe derrière ce voile. Vous savez qu'un jour, il faudra tous y entrer dans l'éternité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et seul Dieu, je dirais, peut nous parler avec certitude, nous apporter des certitudes quant à ce qui consiste en l'avenir éternel de notre âme. Et c'est ce que fait le Seigneur ici. Vous voyez, il va nous parler de deux hommes, deux vies différentes, de destinées éternelles tout à fait différentes et de lieux deux lieux tout à fait distincts où l'un et l'autre vont se trouver. Alors, vous avez remarqué que celui qu'on appelle le mauvais riche va se trouver dans un lieu de tourment, c'est ce qu'on appelle l'enfer, le lieu de la condamnation, et que Lazare, le pauvre, lui, va être accueilli dans le lieu de repos, c'est le ciel. Il faut préciser que le riche n'est pas en enfer parce qu'il est riche. Non plus que Lazare ne serait au ciel parce qu'il est pauvre. Vous voyez, ce que la Bible nous donne à comprendre, il faut toujours comparer les textes de la Bible l'un avec l'autre. La Bible s'explique par la Bible, disait un jour un exégète, c'est que tout simplement, ce pauvre Lazare était un homme de foi, c'est un homme dont la vie plaisait à Dieu, alors que le riche n'avait pas fait cas de lui. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut retirer de ce passage de la Bible, de ces paroles du Christ. La première chose qui nous frappe, c'est que finalement, sous les apparences trompeuses de la vie terrestre, il y a des réalités éternelles que nous ne devons jamais méconnaître. Vous voyez, si on s'arrête à regarder aux choses de cette vie, on va voir certaines choses qui vont nous impressionner, d'autres qui vont nous repousser, peut-être. Mais il faut toujours regarder les choses de cette vie, nous fait comprendre le Christ, avec les yeux du ciel, les yeux de l'éternité. Par exemple, si on regarde ce mauvais riche, et ce que le Christ nous en dépeint en quelques paroles, on s'aperçoit qu'il est tout à fait possible d'avoir une belle apparence aux yeux des hommes et finalement avoir un cœur mauvais et ne rien valoir aux yeux de Dieu. Vous voyez, au verset 19, le Seigneur nous parle de cet homme riche vêtu de pourpre. C'était une couleur, les habits de pourpre étaient évoqués souvent, même la cour. Les souverains, le luxe, le faste, de fin lin, c'était un tissu qui était recherché dans les milieux riches, aisés, et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Donc, on pouvait avoir l'impression, regardant cet homme vivre, son rang social, sa position, le lieu où il avait réussi à se hisser, je ne sais pas si c'était par naissance, s'il y était parvenu à force de travail, et voilà, on pouvait être impressionné. J'imagine que ce riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui menait chaque jour brillante vie, impressionnait souvent son entourage, venait souvent le courtiser. J'imagine que, voilà, le riche a beaucoup d'amis, dira le livre des Proverbes. Mais voyez, quand il va basculer dans l'éternité, malgré ses beaux vêtements, malgré sa belle apparence, eh bien ça ne vaut plus rien. Vous voyez, tout s'évapore. Tout disparaît, il est condamné. Donc, voilà les apparences. Puis on peut avoir, à l'inverse, une piètre apparence, être méprisé par les hommes, et cependant, jouir de la faveur de Dieu. Ça, c'est remarquable. Quand on réfléchit à la manière dont le Christ décrit Lazare, avez-vous fait attention? Regardez au verset 20, le Christ nous parle d'un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. J'ai souvent réfléchi à Lazare. Qu'est-ce qui a pu l'amener là? Comment est-ce que cet homme, qui était un homme de foi, qui était un homme qui craignait Dieu, a pu en arriver là? Vous savez, on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses. Parfois, la vie nous joue de ses tours. On ne peut pas prévoir de quoi sera fait le lendemain. Même si on prend toutes les précautions, même quelqu'un qui est sérieux, même quelqu'un qui réfléchit, même quelqu'un qui fait les choses comme on doit les faire, vous voyez, parfois on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Et toutes sortes de circonstances peuvent se concaténer pour nous amener à expérimenter des situations qu'on n'aurait pas prévues. Concernant les chrétiens, on peut aussi mentionner le fait que des hommes de Dieu, des hommes de foi, des femmes de foi, ont parfois été livrés à la pauvreté, au dénuement, à cause de la persécution, à cause du rejet, à cause d'une position qu'ils ont prise dans un pays où le fait de confesser sa foi vous amène à expérimenter la saisie de vos biens, la prison parfois. On ne sait pas ce qui a amené Lazare là. C'est un triste sort. Et quand on regardait à sa vie, quand on réfléchit à ce qu'a pu être sa vie pendant sans doute un certain temps, vous voyez, couché à la porte du pauvre, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table. Il a vécu l'humiliation, puisque même les chiens venaient lécher ses ulcères. Il n'avait pas moyen, sans doute, de se soigner. Et pourtant, voyez, nous comprenons, au moment où il bascule dans l'éternité, que cet homme jouissait de la faveur de Dieu. Certainement, connaissant le Seigneur comme nous le connaissons, il y a des moments dans sa vie où il a dû bénéficier de l'aide de Dieu, sous une manière ou sous une autre. Vous voyez, il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, et Dieu l'en délivre toujours. Alors, c'est vrai, hein, même dans le dénuement, même dans la difficulté, même en prison, croyons que Dieu est fidèle pour venir en aide à ceux qui croient en lui, qui le connaissent. Mais Dieu l'en délivre toujours. Il y a une délivrance qui est importante, elle est finale, elle est éternelle. C'est celle qu'a connue Lazare. Lorsqu'il a fermé les yeux à la terre, vous voyez, ça a été une fin que peut-être peu d'hommes ont pris la peine de remarquer. Pour lui, ça a été la délivrance, ça a été l'entrée dans la gloire. Il a été reçu par le Seigneur. Son nom est cité. Vous voyez, est-ce que les hommes connaissaient son nom? Hein, sans doute pas. Ceux qui allaient visiter ce riche, dont le nom n'est pas cité dans le texte, eh bien, il passait devant Lazare en l'ignorant, mais Dieu connaissait son nom, c'est Lazare. Vous savez qu'il y a un texte de la Bible qui nous apprend que les noms de ceux que Dieu reconnaît comme ses enfants sont inscrits dans son livre. C'est le livre de vie. C'est le livre de vie. Alors, allons un petit peu plus loin. On voit, si on parle des apparences, qu'il peut y avoir une cérémonie faste, en grande pompe, hein, pour un ensevelissement, pour une inhumation, et que ça n'empêche pas l'âme de descendre dans le séjour de la condamnation. L'enterrement de l'homme riche, je ne sais pas si vous imaginez ça, hein, on imagine un enterrement en grande pompe. On imagine des hommes, des femmes de la même stature sociale que lui, qui se sont assemblés. On a pleuré, comme c'était le cas souvent en Orient, à grand bruit. Ça s'est fait à grand renfort d'instruments peut-être, et voilà, on l'a pleuré, on lui a rendu certainement un hommage sonore, mais il nous a dit que dans le séjour des morts, vous voyez, il s'est retrouvé en proie au tourment. Et là aussi, vous voyez, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit, il y a parfois des enterrements qui se produisent en grande pompe, mais ça ne préjuge en rien de l'avenir de l'âme. C'est le Seigneur qui nous le dit, c'est le Christ. Et jusqu'au bout, le monde est capable de nous vendre sa pompe. Jusqu'au bout, le monde est capable de vous vendre ses apparences. Mais c'est tellement différent du monde spirituel, tellement différent du monde éternel. Puis il peut y avoir une cérémonie qui n'attire pas le regard, qui ne frappe pas les yeux, ou parfois pas de cérémonie du tout. Il nous est dit de Lazare que, voyez, le pauvre mourut. Il n'est même pas question d'un ensevelissement. Peut-être qu'il a été, sa dépouille a été jetée, recouverte à la hâte d'un rocher, de terre. Mais c'est le Seigneur qui le dit. Il a été porté par les anges. Porté par les anges. Nous croyons dans l'existence des anges. Croyons dans l'existence des anges. L'Écriture en parle. La Bible nous dit qu'ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est remarquable ça. Hein, les anges, vous les trouvez abondamment lorsque la naissance du Christ va se produire dans ce que nous célébrons autour de Noël. C'est comme si, voyez, il célébrait la venue sur terre du ciel. Jésus, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Mais là, vous les trouvez sur terre pour y conduire cet homme inconnu, ce Lazare, ce pauvre, que Dieu reconnaissait néanmoins pour son enfant. Quelle différence ! Quelle différence avec ce qu'on a pu voir ! Quelle différence avec ce que les yeux pouvaient montrer ! Donc les apparences du monde et la réalité éternelle. Et puis une autre pensée, c'est qu'il peut y avoir d'abondants biens, voyez, on peut avoir d'abondants biens de toutes sortes sur cette terre, et tout perdre pour l'éternité. Puis on le comprend, hein, c'est le cœur de cette parabole. On peut aussi ne rien posséder sur la terre, vivre pour toutes sortes de raisons, dans un état de pauvreté relatif, voire, comme c'était le cas pour Lazare, dans le dénuement, sa condition était particulière. C'est pour ça que Jésus en parle. Et pourtant, avoir un trésor dans le ciel. Et ça, ça mérite qu'on s'y arrête. Ça mérite qu'on y réfléchisse pour, non pas, vous voyez, comme ça a été le cas pour certains hommes religieux dans l'histoire du monde, pour faire nécessairement vœux de pauvreté, renoncer aux richesses, à toute forme de richesse sur la terre, dans l'espoir que notre renoncement lui-même, vous voyez, nous ouvre le ciel, nous donne un droit. Hein, ça, ce serait mal comprendre l'Évangile. Vous avez des gens qui l'ont fait, vous avez certains ordres monastiques qui ont pratiqué ces choses. Ce n'est absolument pas ce que la Bible enseigne. Mais il faut réfléchir aux choses pour posséder les vraies valeurs. Vous voyez, pourquoi est-ce que le Seigneur prononçait ces mots? Pourquoi est-ce qu'il raconte ces choses? Pourquoi est-ce qu'il lève le voile particulièrement sur l'avenir de ce riche qui est condamné et de ce pauvre qui est porté par les anges dans le sein d'Abraham? C'est parce qu'il a en face de lui, en tant qu'auditoire, des hommes religieux qui ont une belle apparence mais qui sont avares. Des hommes qui, malgré leur profession de connaître Dieu, sont attachés à l'argent par-dessus tout. Et il est même dit que, alors que Jésus-Christ apportait des enseignements sur les richesses, non pas pour condamner la richesse en tant que telle, mais pour condamner l'amour que parfois les hommes lui portent, et qui les pousse dans toutes sortes d'excès, dans toutes sortes de penchants égoïstes, dans toutes sortes de calculs, voyez, méchants. Et il nous est dit que ces hommes, malgré leur religion, non seulement n'écoutaient pas, mais se sont moqués de lui. Alors, voyez, Jésus soulève un coin du voile pour les amener à réfléchir. C'est pour nous qu'il parle, c'est pour eux. Et finalement, c'est pour tous, parce que la foi, voyez, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Il faut aller, si on veut avoir la foi, au-delà, il faut permettre à la parole de Dieu de nous amener à considérer les choses au-delà des apparences, au-delà de ce que la terre nous présente. Alors, je vous propose de partager quelques enseignements pratiques qui sont aussi attirés de ce que le Christ nous apporte ici. Premier, c'est de ne pas négliger l'opportunité d'être sauvé. Cette opportunité nous étant donnée sur cette terre. Vous voyez, quel que soit notre degré de richesse ou de pauvreté, vous voyez, l'Évangile nous est apporté. Aujourd'hui, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Hein ? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Il ne faut pas mépriser l'occasion que Dieu nous donne quand il permet que nous recevions l'Évangile, et il faut le recevoir. Il faut le recevoir, cet Évangile. Il sauve. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et voyez-vous, celui qui le reçoit, il reçoit un grand trésor. Ça, c'est glorieux de penser que cet après-midi, bien, je pense que parmi nous, il n'y en a pas un qui ressemble par le degré de sa richesse à ce mauvais riche, et peut-être, sans doute, je l'espère, pas un qui ressemble par le degré de sa pauvreté à Lazare, mais Dieu nous donne à tous un grand trésor. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Une deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de communication possible entre cette vie et l'au-delà. On le voit hein, dans ces paroles du Seigneur qui nous montrent que lorsque le mauvais riche se retrouve dans le lieu de tourment, il prend conscience que il a manqué le but. Il prend conscience lorsqu'il aperçoit Lazare, le pauvre qu'il a vu si souvent à sa porte, rendez-vous compte, à sa porte, mais il n'est jamais venu lui porter secours. Il ne lui a jamais rien donné. Il ne s'est jamais penché sur sa détresse. Et peut-être que s'il l'avait fait, il prend conscience que Lazare lui connaissait Dieu. Et que peut-être, voilà, au cours de ce contact, Lazare aurait pu lui donner quelques paroles qui lui auraient permis à lui aussi de recevoir le salut. Il y a tellement de choses qui nous reviennent, tellement d'occasions manquées. Et là, il prend conscience de tout ça. Et c'est le Christ qui nous apprend que le mauvais riche va s'adresser à Abraham. Abraham est cité puisque c'est une des figures de l'Ancien Testament. Sa simple présence dans le ciel nous lève un coin du voile sur la gloire qui est réservée aux élus. Et le mauvais riche va lui parler, il va l'interpeller, il va lui dire, écoute Abraham, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est extraordinaire, hein, ce récit. C'est le Christ qui connaît, qui a dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts, c'est écrit ça, qui nous rapporte ses paroles, se déroule derrière le voile, se déroule dans l'éternité. Des choses qu'on ne peut pas comprendre, alors qu'il y a un grand abîme immense. Comment les paroles de ce mauvais riche peuvent-elles parvenir jusqu'à Abraham? Pourtant, ça s'est produit. Hein, je crois que les dimensions, la notion même de l'espace n'est pas celle qu'on connaît ici, c'est tellement différent. Et Abraham ne va pas accéder à sa demande, ce qui nous montre qu'en aucun cas il ne peut y avoir une communication entre l'au-delà et la terre. Ça, c'est très important parce que vous avez bien des gens qui sont abusés, bernés, par toutes sortes d'enseignements faux, des livres prétendus ésotériques. On leur donne toutes sortes de noms, hein. C'est l'occultisme en réalité, c'est le royaume des ténèbres. Mais aujourd'hui, pour faire accepter ces doctrines divexes et démoniaques, on utilise toutes sortes de noms ronflants, hein. Et quand on vous parle de communiquer avec les morts, vous voyez, ça, il ne faut pas le croire. Il ne faut pas l'accepter, c'est tout à fait contraire à ce que l'Écriture enseigne. Je me souviens de ce témoignage qui m'a été donné par un serviteur de Dieu. Ça s'est déroulé pendant la guerre. Vous voyez, une femme avait reçu cette nouvelle terrible que son mari avait péri dans le conflit. Et pendant des années, vous voyez, elle a porté le deuil. Et cette femme est entrée en communication avec des spirites. Et non pas parce qu'elle était attirée par les choses ténébreuses, mais parce que son espoir, vous voyez, c'était de communiquer avec celui qui l'avait perdu. Et au cours d'une séance de spiritisme, un esprit s'est manifesté et elle a cru entendre une manifestation de son mari. Voyez. Seulement, des années plus tard, elle s'est aperçue que son mari n'avait jamais perdu la vie. Il a refait surface, se sont retrouvés. Alors ça a été bien sûr une grande joie pour elle de retrouver son mari, mais elle a réfléchi, elle s'est aperçue que l'expérience qu'elle avait vécue, quoique réellement surnaturelle, était en réalité une ruse des ténèbres, que celui avec lequel elle pensait dialoguer, pensant parler avec son mari, n'était pas du tout son mari, mais un esprit du monde des ténèbres, parce que nous croyons dans l'existence du monde de la lumière, mais aussi du monde des ténèbres. Et si quelqu'un avait touché à ce monde des ténèbres, bien c'est important cet après-midi d'ouvrir vos yeux, de prendre conscience devant l'enseignement de l'Écriture que bien vous avez été berné, abusé, et que vous pouvez trouver auprès de Dieu une consolation vraie, un secours véritable. Hein? Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On peut encore retenir cette leçon pratique. Voyez, si sur cette terre, pendant quelques années, les chrétiens, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui le refusent, marchent côte à côte, bien, vient un jour où il y aura une séparation définitive et éternelle. Vient un jour où il y aura une séparation définitive et éternelle, une pensée solennelle. Vous savez, elle doit vous faire réfléchir, elle doit nous faire réfléchir. Ça veut dire que, malgré tous les liens affectifs qui nous lient, à ceux qui nous sont proches, bien dans la mesure où quelqu'un refuse l'Évangile, quelqu'un refuse Dieu, il aura sa part dans le lieu de tourment. Le fils sera ainsi séparé de son père, la fille de sa mère, l'homme, tel le mauvais riche, de ses frères, de ceux qu'il a côtoyés de près. Et ce qui aujourd'hui nous semble difficile à concevoir sera une réalité, et une réalité éternelle. C'est pourquoi il ne faut pas aujourd'hui refuser la main que Dieu nous tend. C'est pourquoi il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et puis, on voit, vous voyez, encore que les miracles, si glorieux soient-ils, vous voyez, n'ont pas en eux-mêmes le pouvoir de conduire qui que ce soit à la foi. C'est ce mauvais riche qui, dans ses propos tenus à Abraham, lui dit « Mais si tu envoies quelqu'un, si tu envoies Lazare, si quelqu'un ressuscite des morts, sans doute mes frères qui sont comme moi j'étais, moi qui n'ai pas eu cette occasion, mes frères vont voir une résurrection et ils croiront. » Et Abraham va lui dire ceci, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Ce qu'Abraham nous fait comprendre, c'est le Christ qui nous relaie ces paroles. C'est que aujourd'hui, l'occasion qui nous est donnée de connaître la vie éternelle, de la goûter, elle nous est apportée par l'enseignement de la Bible. Voyez, même si nous n'avons pas expérimenté de miracles, quand bien même nous n'en aurions pas expérimenté, peut-être que Dieu vous a guéri, hein, mais il le fait pour vous conduire à la foi dans sa parole. Voyez, il confirme sa parole par des miracles. Le miracle en lui-même, ce n'est pas ce qui amène notre cœur à changer. Vous voyez, ce qui transforme notre cœur, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Et ça, je vous assure, quand on la reçoit, ça y crée un changement. Hein, le cœur le plus dur, quand il s'ouvre à la parole de Dieu, tout change. Hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est un changement profond que Dieu apporte. Si quelqu'un a soif, dit le Seigneur, qu'il vienne à moi, qu'il boive, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, si nous recevons cette parole, voyez, une source d'eau, ça nous lave. Peut-être quelqu'un se reconnaît, mais oui, peut-être quelqu'un se reconnaît sous les traits de ce mauvais riche et peut dire, oui, il y a eu en moi de l'égoïsme, il y a eu en moi de l'attachement à des choses qui n'étaient pas bonnes. Peut-être que ce n'était pas l'argent, mais peut-être que c'est autre chose. Et j'ai agi de telle manière qu'aujourd'hui, je prends conscience de ma noirceur, j'ai fait du mal autour de moi. Il faut le reconnaître, il faut le confesser à Dieu. Il nous a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout péché. Une source nous lave. Puis la source, elle apporte la vie. Hein, pour les orientaux, c'était une image qui était facile à comprendre. Une source qui apporte la vie, une source qui est sans cesse renouvelée, qui rafraîchit, qui est capable de redonner vie à ce qui était mort, desséché. Vous voyez, c'est ce que la parole de Dieu produit en nous. Et ne cherchons pas forcément des miracles, ce qui frappe le regard. Hein, si quelqu'un était malade, Dieu est capable d'intervenir dans un corps malade. Mais l'important, c'est de recevoir sa parole, c'est elle qui nous donne la vie et la vie éternelle. Très rapidement, je termine en ajoutant ceci. Vous remarquez que quand la parole de Dieu vient à nous, elle nous place toujours devant un choix. Elle nous place toujours devant un choix. Il est question de deux chemins. Le Seigneur nous parle ici de deux maîtres. Il nous donne deux exemples. Il y a deux lieux. Et il nous faut souligner avec force cette réalité que la Bible nous place toujours devant deux possibilités, pas devant trois, pas devant quatre. C'est l'homme qui, parce que il refuse parfois de recevoir cet enseignement, a voulu créer d'autres possibilités. Par exemple, la religion catholique romaine avec le purgatoire. Hein, jamais vous ne le trouverez dans la Bible, il n'existe pas. Mais il faut choisir dès maintenant, et notre choix, la manière dont nous nous comportons, dont nous recevons la parole de Dieu, va déterminer laquelle de ces deux possibilités, laquelle de ces deux avenirs s'accomplira pour nous. Maintenant, c'est deux et non trois. Mais deux, c'est plus que un. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un a marché dans les ténèbres, si aujourd'hui quelqu'un a marché dans la tristesse, si aujourd'hui quelqu'un fait ce constat, j'ai marché dans l'égoïsme, je me suis fourvoyé, oui, j'ai fait le mal, j'ai offensé Dieu. Mais il y a une autre solution, il y a un autre chemin. Dieu vous permet de faire demi-tour. Et il dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on se détourne sans se revenir? Jésus dit, revenez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Voyez, Dieu nous met devant deux chemins, mais il nous laisse libres de notre choix. Pourtant, tout en nous laissant libres, il nous indique le bon. Hein, il nous dit, voilà, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Et puis, si nous empruntons ce chemin, voilà, on voit à travers les traits de Lazare que... Même si nous ne connaissons pas la pauvreté, vous ne le souhaitez pas. Hein, mais nous connaîtrons des difficultés. Et Dieu sera avec nous. Dieu sera avec nous et l'issue, voyez, elle sera favorable. Le Seigneur dit, si quelqu'un croit en moi, il a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, je ressusciterai au dernier jour. C'est l'évangile. C'est l'évangile du Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est le don gratuit de Dieu. Aimeriez-vous le recevoir ? propose qu'on se recueille quelques instants et simplement on s'approche de Dieu dans la prière. Merci.